Donc aujourd'hui, on va aborder un point important qui est la question, des questions centrales sur la morale machiavélienne, ce que j'ai appelé donc l'historicité du bien et du mal. Donc vous vous rappelez que quand il aborde la question de l'agir politique, Machiavel entend andar dietro la verità effettuale della cosa, suivre la vérité effective de la chose. Ce choix va de pair avec un refus, le refus de l'imaginazione della cosa, hein, l'image de la chose, le fonctionnement imaginé, le fonctionnement imaginaire. Hein. Et donc ce choix et ce refus impliquent que Machiavel se situe dans ce qui est et non dans ce qui devrait être. De ce point de vue, on a déjà eu l'occasion de voir qu'on ne peut pas parler de singularité de Machiavel. Hein. D'autres Florentins, ses contemporains, ont explicité avec clarté qu'ils effectuaient un choix semblable, comme par exemple le Guicciardini du Dialogo del Reggimento di Firenze, mais également le correspondant et ami de Machiavel, Francesco Vettori, dans son Sommario delle cose d'Italia. Ce choix implique une rupture avec des traditions intérieures, les traditions aussi bien de la philosophie ancienne, mais aussi la tradition des miroirs des princes. Ce choix implique également une détermination de champ de l'analyse, une mise en évidence de nouveaux objets sur lesquels doit s'exercer l'acte de pensée de celui qui désire agir dans le domaine du politique. Car il faut avoir en tête, en étudiant Machiavel et en étudiant Le Prince, que ce n'est pas là un texte et ce n'est pas là un auteur qui sont extérieurs au monde de l'agir. Il n'y a pas, de la part de Machiavel, un retrait du monde de l'agir. Il n'y a pas de volonté d'analyser de l'extérieur, de considérer froidement l'état des choses. Ces textes sont toujours, d'abord, même si ensuite ils ont un effet dans le champ de la philosophie politique, hein, effet qui continue à avoir de nos jours, mais au moment où ils sont écrits, ce sont des textes d'intervention, des textes qui visent à convaincre pour faire agir, et tout autant pour essayer d'obtenir le droit d'agir lui-même. Hein, cette fameuse phrase de la lettre à Francesco Vettori, hein, « Au moins, voltolare uno sasso ». Donc, ces textes de Machiavel, mais là, présent du prince à l'art de la guerre, ou même dans les dernières lettres de lui, dans la dernière période, hein, dans un moment de la guerre en 1525, enfin de la préparation de la guerre en 1525-1526, en particulier ses lettres avec Guicciardini, montrent bien qu'il y a là une incitation à agir qui est permanente et qui explique, hein, bonne partie des caractéristiques de l'écriture. Il y a là une analyse de la situation, une analyse des risques que la situation comporte et des choix que Machiavel estime nécessaires pour mettre fin à cette série des défaites italiennes, pour sortir de l'Italie, pour sortir l'Italie de l'esclavage dans lequel elle est tombée. Hein, la fameuse exhortatio du chapitre 26 du Prince. L'acte d'écriture implique évidemment un décentrement de celui qui écrit, une perspective décalée qui permette de mettre en évidence les objets à décrire, qui permettent d'éclairer tour à tour chacune des faces de cet objet. Et vous savez que cette conscience, hein, du rôle de l'écriture est exprimée par une métaphore de la lettre de dédicace qui est la métaphore de coloro che disegnano e paesi. Hein? Così come coloro che disegnano e paesi si pongono bassi nel piano a considerare la natura dei monti e dei luoghi alti, e per considerare quella dei luoghi bassi si pongono alto sopra i monti, similmente a conoscere bene la natura dei popoli bisogna essere principi, a conoscere bene quella dei principi conviene essere popolare. Mais au-delà de ce décentrement nécessaire de l'analyste, l'objectif reste bien de rendre capable ceux qui lisent d'intervenir sur le terrain, de sauver ce qu'on peut encore sauver, de donner forme aux potentialités de l'agir politique. Les questions que pose et que se pose Machiavel sont au fond des questions simples qui se formulent simplement, qui peuvent se formuler simplement. Comment faire pour sauver la liberté d'une cité quand elle est corrompue, quand les moyens ordinaires ne suffisent plus? Comment éviter que la présence des forces étrangères en Italie et la faiblesse militaire des Italiens ne fassent que l'Italie soit réduite en servitude et soumise au joug des forces d'outre-mont. Répondre à ces questions finalement simples à formuler implique que soit éclaircie la question du temps et la question des forces. J'ai répété plus d'une fois, donc je n'y insisterai pas énormément maintenant, que pour Machiavel, l'agir politique doit définir ses objectifs en fonction de la qualité des temps. Et cette qualité du temps est déterminée par des rapports de force. Je vous rappelais que dans le chapitre 12, paragraphe 3 du Prince, Machiavel rappelle ce que sont les fondements d'un État, les principaux fondements, dit-il, que doivent avoir tous les États, les vieux comme les nouveaux ou les mixtes, sont les bonnes lois et les bonnes armes. Ce qui sera déterminant de l'un ou l'autre de ces fondements, les bonnes lois et les bonnes armes, dépend précisément du temps, de la qualité des temps, ou, pour le dire avec un terme contemporain, de la conjoncture. Donc de la situation externe et de la situation interne, dans l'étape dans laquelle on est à un moment donné. S'agit-il d'acquérir ou de fonder, ou bien de maintenir et de conserver, de maintenir? Les temps sont-ils paisibles ou sont-ils incertains? Celui qui veut agir dans le domaine politique doit donc penser en termes d'analyse combinatoire. Il faut à chaque instant penser les spécificités de la conjoncture, ses enjeux, et définir en fonction de cette analyse les objectifs du moment. Dès lors, est bon ce qui permet de réaliser ces objectifs, est mauvais ce qui ne le permet pas. Cette façon de poser la question du bon et du mauvais est une des raisons, sinon la raison, qui explique pourquoi il ne peut y avoir et il n'y a pas de règle sans exception dans la réflexion machiavélienne. Que quand une règle s'exprime, c'est une règle qui en général fonctionne, mais qui souffre des exceptions. C'est également une des raisons de ce qu'on pourrait nommer la pensée par bloc, par problème à résoudre, qui est caractéristique de la façon d'écrire machiavélienne. Et c'est donc, de ce fait, l'explication d'éléments qui pourraient apparaître comme des hésitations, voire des contradictions, hein, de la pensée machiavélienne. Vous vous rappelez qu'à la suite de la formule précédemment citée du prince, hein, les principaux fondements que doivent avoir tous les États sont les bonnes lois et les bonnes armes. Machiavel énonce, puisqu'il ne peut pas y avoir de bonnes lois là où il n'y a pas de bonnes armes, et que là où il y a de bonnes armes, il faut bien qu'il y ait de bonnes lois, je laisserai de côté les propos sur les lois et je parlerai des armes. Et je crois très clairement qu'il ne faut pas avoir là une règle générale valable en tout temps, qu'il faut reconnaître là une historicisation, l'analyse d'un moment historique que Machiavel a mis en mots à toute une série de reprises, hein, que Guy Chardin a évoqué dans une formule que je vous ai répétée jusqu'à plus soif, à savoir l'arrivée des Français en 1494, hein, « Mutò gli stati, il modo di governarli, il modo di far guerra », hein, dans cette période déterminée, en fonction de cette qualité des temps, il faut être prêt à combattre par la force. Et il faut comprendre que la question des armes est déterminante. Et c'est ainsi que j'analyse, que je comprends donc ce choix énoncé dans le chapitre 12 de laisser de côté pour le moment la question des lois et de parler des armes. Vous savez que ce choix, c'est précisément un des choix qui fonde la nécessité d'écriture du prince, la nécessité d'écriture de l'art de la guerre et la nécessité d'écriture de bien des passages, des discours centrés sur cette question des armes. En d'autres circonstances, dans une autre qualité des temps, il faudrait être prêt à agir autrement, à combattre selon les lois, donc à la manière des hommes, hein, et non à la manière des bêtes, en considérant alors que la question des lois, la question des ordini est déterminante. Un passage du prince dans le chapitre 19 énonce justement cette différence en fonction d'une situation, différence que celui qui agit dans le domaine du politique doit assumer. Hein, il s'agit du paragraphe, c'est la dernière phrase du chapitre 19 du prince. Pertanto, uno principe nuovo in uno principato nuovo non può imitare le azioni di Marco, né ancora è necessario seguitare quelle di Severo, ma debba pigliare da Severo quelle parti che per fondare il suo stato sono necessarie, e da Marco quelle che sono convenienti e gloriose a conservare uno stato che sia già stabilito e fermo. Donc, suivant les circonstances, suivant la nature de la situation, choisir l'une ou l'autre des façons d'agir. La décision de s'appuyer sur l'une ou l'autre des communautés qui font le corps de la cité, du Stato ou de l'Empire, ne peut être prise a priori. Elle doit résulter de l'analyse préalable de la définition des enjeux et des objectifs liés au temps qui court. Alors, le premier point que je voudrais traiter maintenant, assez rapidement, mais en donnant quelques éléments le balisage d'un terrain complexe, c'est tenter d'éclaircir ce qui se joue dans le rapport entre fortune et vertu. Car s'énonce là, je crois, une des premières réflexions sur l'acteur politique et son éthique. Réflexions qui sont, je crois, au cœur de tout agir politique, et aujourd'hui comme au moment où écrivait Machiavel. Donc très sommairement, la fortune, c'est ce qui donne ou ôte l'occasion d'agir aux hommes. C'est donc ce qui échappe à un possible déterminisme historique. Dans les écrits de Machiavel, la fortune, le rôle de la fortune, consiste à énoncer qu'il n'y a pas de déroulement nécessaire de l'histoire. Pas de sens de l'histoire. Et alors, on pourrait me dire, mais dans les discours, il reprend la thèse polybienne du retour des cycles, etc. Alors, d'une part, cet énoncé qui effectivement existe, les premiers chapitres des discours n'est pas est énoncé, mais n'est pas producteur de conséquences théoriques. C'est-à-dire qu'il en parle une fois, il n'y revient pas et n'en tire pas des conséquences permanentes. Hein. Mais surtout parce que le risque de mort de la cité, de l'État, du Stato ou de l'Empire, etc., le risque de mort de l'organisme politique suffit à mettre au point, suffit à mettre fin au processus invariable que décrit ce passage des discours reprenant Polybe. Hein. La fortune dit l'existence de l'aléatoire, du non nécessaire, de l'irrationnel, et la vertu, de son côté, permet de saisir les occasions et de changer les choses, hein, de changer le cours qui paraissait nécessaire des choses. La fortune indique que rien n'est jamais acquis à l'acteur politique, mais elle indique également que rien non plus n'est perdu d'avance. Car l'existence de la vertu, de la virtu, inscrit le rôle déterminant possible de l'acteur politique dans le déroulement de l'histoire. Il y a là comme l'énoncé d'une éthique de l'action. En termes machiavéliens, il s'agit avant tout de, et là c'est une expression récurrente dans les textes, hein, en particulier dans les discours, non si abbandonare mai. Bon, donc, important aussi pour ceux qui préparent des concours de recrutement. Non si abbandonare mai. La question de l'occasion fournie ou pas par la fortune est totalement liée à cet état d'esprit. L'occasion à saisir est parfois, et c'est ainsi qu'elle s'énonce dans Le Prince, est parfois la pire des situations. L'occasion à saisir par celui qui pourrait être le rédempteur de l'Italie, c'est une situation où l'Italie est plus esclaves, hein, où les Italiens et l'Italie sont plus esclaves que les Juifs, plus asservis que les Perses, plus dispersés que les Athéniens, sans chef, sans ordre, battus, dépouillés, lacérés, parcourus en tous sens. Et c'est ça l'occasion qui a fourni la fortune. C'est la situation qui semble la pire, hein, est la meilleure des situations, l'occasion qui démontrera la virtù di uno spirito italiano. Le rôle de l'acteur politique est donc toujours possible et toujours déterminant. L'acteur politique peut échouer, évidemment, hein, mais beaucoup des échecs ont des raisons analysables. Certaines des raisons des échecs, vous en souvenez, sont des péchés. Hein. Ces erreurs sont des péchés, les péchés des princes du chapitre 12, l'ignavia du chapitre 24. Hein. Et il faut les analyser, mais quoi qu'il en soit, reste cet impératif « non si abbandonare mai ». Ne jamais se laisser râler. Il faut tenter, tenter encore, car la fortune, hein, varie, va par des voies de traverse que nous ne connaissons pas, et la seule certitude, c'est que on est sûr d'échouer si l'on ne tente pas. Vous voyez bien que si l'éthique de l'acteur politique consiste à exercer sa vertu et à non si abbandonare mai, on a un problème de taille sur le lien entre cette posture éthique et les fonctionnements de l'agir politique. Agir bien, c'est en agissant, il s'agit donc pour agir bien, pour obtenir le bien, il s'agit donc d'agir en bon médecin, en bon architecte, après avoir déterminé, en fonction de la qualité des temps, les enjeux, les qualités du moment. Agir en conséquence de cette analyse. Mais dès lors, on voit bien que n'importe qui peut jouer ce rôle et définir enjeux et objectifs du moment. S'il les atteint, quels qu'ils soient et quels que soient les moyens utilisés, il joue et il joue bien le rôle qui est celui qui est dévolu à l'acteur politique. Et vous voyez bien que c'est là que peut naître, d'une certaine façon, à juste titre, à bon droit, les lectures qui font de Machiavel un auteur immoral, hein, qui fonde la possibilité de dire, de définir le machiavélisme, hein, comme une façon immorale de penser l'action politique. Et du coup, qui fonde des textes de Machiavel, des textes qui détruisent tout fondement de l'autorité et tout sens moral de l'agir politique. Alors, vous voyez bien que c'est sur ce point qu'évidemment, pour répondre à ce problème moral décisif. Toute une série d'auteurs qui voient en Machiavel un auteur républicain. Il y en a dès le XVIIe siècle en Italie. Il y a évidemment le cas de Rousseau en France. Sont amenés à dire, mais oui, mais en fait, il faut lire de façon oblique les textes de Machiavel. Machiavel, en fait, est quelqu'un qui décrit les actions des princes pour permettre au peuple de comprendre comment fonctionnent les princes. Et donc, une fois qu'ils auront compris ça, ils auront les capacités de les combattre. Des gens comme moi ou comme Fournel, là, on réplique à ce questionnement sur la morale, sur politique et morale chez Machiavel. Évidemment, on peut répliquer que quand il écrit, Machiavel, lui, définit précisément les enjeux qui lui paraissent déterminants. Sauver la patrie, quel que soit le moyen utilisé, sauver Florence, libérare d'utorna cura Italiam, comme dans cette lettre que je vous lisais, qui est une lettre à Guicciardini, que je vous lisais la semaine dernière. Donc il définit précisément les enjeux, il définit les moyens nécessaires, les armes propres, l'ordine terzo de la fanteria. Et n'empêche que on a beau faire ces précisions historiques sur les intentions de Machiavel, et tout ça n'empêche pas que sa conception même de ce qu'est un acteur politique vertueux porte en germe l'indétermination de cet acteur. Le bien et le mal chez Machiavel sont radicalement historicisés. Et tout acteur politique s'inscrit dans cette réalité-là. Et là, il y a vraiment une force de la leçon machiavélienne dont on ne peut pas se libérer aisément. Alors, pour illustrer cette idée de la historicisation radicale du bien et du mal, Je prendrai un peu de temps pour analyser le chapitre 8 du Prince. Alors, en chapitre 8, donc, Machiavel prend deux exemples qui relèvent d'un cas de figure qui n'était pas explicitement prévu dans le chapitre 1, puisque il traite de ceux qui, sans fortune ni vertu, mais par les scélératesse, per scélera, parviennent au principat, et vous savez qu'il prend deux exemples, un dans l'Antiquité et un dans l'histoire récente. Agathocle, donc tyran de Syracuse, et Oliverotto da Fermo. Sur Agathocle, donc, il explicite très clairement que on ne peut pas attribuer ni à la fortune ni à la vertu l'ascension d'Agathocle. Qui considéra, c'est les paragraphes 9 à 12. Qui considéra si adunque le azioni e vita di costui, donc Agathocle, le Sicilien Agathocle, non vedrà cose o poche le quali possa attribuire la fortuna, con ciò sia cosa, come di sopra è detto, che non per favore di alcuno, ma per i gradi della milizia, e quali con mille disagi e pericoli si aveva guadagnati, per venirsi al principato, e quello di poi, con tanti partiti animosi e pericolosissimi, mantenessi. Non si può ancora chiamare virtù ammazzare i suoi cittadini, tradire gli amici, essere senza fede, senza pietà, senza religioni, e quali modi possono fare acquistare imperio, ma non gloria. Perché se si considerassi la virtù di Agatocle nello entrare e nello uscire dei pericoli e la grandezza dello animo suo nel sopportare e superare le cose avverse, non si vede perché egli abbia ad essere giudicato inferiore a qualunque eccellentissimo capitano. Non di manco la sua efferrata crudeltà e inumanità con infinite scelleratezze non consentono che sia infra gli eccellentissimi uomini celebrato. Non si può dunque attribuire alla fortuna o alla virtù quello che senza l'una e l'altra fu da lui conseguito. Alors, eh bien, tu, là, pas si simple, hein, pas si simple. Une grande vertu qui permet de le comparer à tout autre très excellent capitaine. S'il a une vie scélérate, il accompagne ses scélératesses d'une très grande virtù dello spirito e del corpo, tanta virtù di animo e di corpo, et puis au fond toute cette liste des choses qu'il a fait, ammazzare i suoi cittadini, tradire gli amici, essere senza fede, senza pietà, senza religione, est si différent de ce que César Borgia, présenté comme un exemple de quelqu'un qui a fait tout ce qu'il fallait, sauf la dernière erreur qui a été qu'il a laissé lire un pape qui était son ennemi, a commis. Donc là, on a une espèce de mise en place dans ce chapitre d'un jeu sur les emplois de la vertu, dont on peut se demander s'il n'y a pas quelque chose qui relèverait du respect nécessaire minimum vis-à-vis de l'opinion commune, hein, quelque chose qui pourrait s'énoncer. On ne peut quand même pas dire que tuer, trahir, être sans pitié et sans religion soit un exemple de vertu. Alors, c'est Agatocle qui ressemble fort à Borgia, cette espèce de jeu sur dans un cas c'est bon, dans un cas ça l'est pas, dans un cas c'est la virtu qui agit, dans l'autre... c'est la scélératesse, mais qui s'appuie sur certains aspects qu'il faut bien nommer vertu. Alors, il nous semble qu'il y a là comme l'énoncé d'un paradoxe. Au fond, Borgia, Agatocle et Oliverotto da Fermo furent tous les trois cruel, mais au fond, dans la classification machiavélienne, seul Borgia est vertueux, au sens machiavélien. Mais au-delà de ce paradoxe, ce qui s'énonce, c'est la distinction de deux usages de la scélératesse et des cruautés. Machiavel, dans le même moment d'écriture, fait d'une certaine façon semblant de prendre des précautions par rapport aux reproches qu'on pourrait lui faire et qu'on n'a pas manqué de lui faire. Je ne dirais pas que trahir, renoncer à la pitié, à la religion, soit l'expression de la vertu. En même temps, il manifeste une certaine ironie à l'égard de cette doxa vis-à-vis de la vertu. Hein? Parce que il estime que il y a là une définition abstraite, non historique, du bien et du mal, du vice et de la vertu. Et il introduit un troisième élément en constatant que des scélérats comme Agathocle, des gens dont on ne peut pas dire que leur réussite soit attribuée à la fortune ou à la vertu, eh bien, peuvent se maintenir au pouvoir. Potrebbe alcuno dubitare donde nascesse che Agathocle e alcuno simile, dopo infiniti tradimenti e crudeltà, possa vivere lungamente sicuro nella sua patria e difendersi dagli inimici esterni e dagli suoi cittadini non gli fu mai cospirato contro. Con ciò sia che molti altri, mediante la crudeltà, non abbino, etiam, nei tempi pacifici, potuto mantenere lo Stato, nonché nei tempi dubbiosi di guerra. Et vous savez qui va répondre à cette interrogation, comment ça se fait, hein, que, et il répond avec une phrase où s'exprime très, très clairement cette hypothèse de l'historicisation, de la politisation du bien et du mal, hein, qui est sur l'usage, bon ou mauvais, hein, des cruautés. Puisque, après avoir posé rhétoriquement la question, enfin, avoir constaté qu'on pourrait se demander comment ça se fait, hein, il répond: credo che questo avvenga dalle crudeltà male usate o bene usate. Bene usate si possono chiamare quelle, se del male è lecito dir bene, che si fanno ad un tratto per la necessità dello assicurarsi e di poi non vi si insiste dentro, ma si convertono in più utilità dei sudditi che si può. Male usate sono quelle le quali, ancora che nel principio siano poche, piuttosto col tempo crescano, che le si spenghino. Coloro che osservano il primo modo possono, con Dio e con gli uomini, avere allo stato loro qualche rimedio, come ebbe Agatocle, quegli altri è impossibile si mantengano. Les cruautés peuvent donc être bien ou mal employées. Elles sont bien employées à trois conditions. Si elles ne s'étalent pas dans le temps, si le recours à ces cruautés est dicté par la nécessité, si enfin on n'insiste pas par la suite et qu'on les transforme en utilité pour les sujets. Le temps, la nécessité, l'utilité pour les sujets. C'est au prix du respect absolu de ces trois critères que le pouvoir du prince cruel peut se maintenir, car il peut être accepté par Dieu et par les hommes. Il existe donc un temps, une nécessité, un ordre de la cruauté. La cruauté bien employée est une des composantes de l'ordre princier. Elle n'est pas justifiée par la méchanceté des hommes, mais par l'efficacité nécessaire de l'action politique. S'il en va ainsi, c'est d'ailleurs qu'il n'y a pas de bien ou de mal en soi pour Machiavel. Il n'existe que des situations historiques dans lesquelles c'est une bonne ou une mauvaise chose de se comporter de telle ou telle façon, car ce qui compte, c'est l'adéquation de la façon d'agir, du modo del procedere, aux nécessités induites par la conjoncture. Vous savez qu'il dira dans le chapitre 18 qu'un prince doit savoir choisir, prendre la voie du mal lorsque la nécessité l'y contraint, lorsque cela lui est nécessaire. Il doit comprendre le mal. Il exprime ce point dans chapitre 22, paragraphe 5. Il doit savoir récompenser le bien ou le mal extraordinaire, chapitre 21, paragraphe 9. Alors, cette expression de l'historicité du mal et de l'usage positif possible des cruautés, nous allons la retrouver dans un chapitre ultérieur, le chapitre 17, où Machiavel revient sur l'expérience de Cesare Borgia et revient sur ce qu'est ou ce que n'est pas la bonne cruauté, la mauvaise cruauté. C'est donc le début du chapitre 17, qui s'intitule, comme vous le savez, De crudelitate et pietate, de la cruauté et de la pitié. Et ça sera intéressant parce que vous allez voir que la cruauté de Borgia est mise en parallèle avec la pitié des Florentins, avec un inversement des jugements qu'on pourrait attendre. Scendendo appresso alle altre qualità preallegate, dico che ciascuno principe debbe desiderare di essere tenuto pietoso e non crudele. Non di manco, debbe avvertire di non usare male questa pietà. Et d'emblée, s'inscrit l'idée que puisqu'il y a des crudeltas bene o male usate, il y a aussi des pietas bene o male usate. Donc l'historicisation des deux éléments est très évidente. Très évidente. Et il prend l'exemple de César Borgia. Era tenuto Cesare Borgia crudele. Non di manco. Quella sua crudeltà aveva, racconcia la Romagna, unitola, ridottola in pace e in fede. Il che, se si considera bene, si vedrà quello essere stato molto più pietoso che il popolo fiorentino, il quale, per fuggire il nome di crudele, lasciò distruggere Pistoia. Debbe pertanto uno principe non si curare della infamia del crudele per tenere sudditi sua uniti e in fede, perché con pochissimi esempi sarà più pietoso che quelli e quali per troppa pietà lasciano seguire disordini di che ne nasca uccisioni o rapine, perché queste sogliono offendere una universalità intera, e quelle esecuzioni che vengono dal principe offendono uno particolare, e infra tutti e principi al principe nuovo è impossibile fuggire il nome di crudele, è impossibile fuggire il nome di crudele per essere gli stati nuovi pieni di pericoli. Et là, là on a l'explicitation complète de ce qui animait dans le chapitre 8 le propos machiavélien sur les cruautés. Hein. Ici, donc, on a un espèce de renversement hein, de la communis opinio sur cruauté et pitié, parce que pour l'une comme pour l'autre, et pour toute action de l'agir politique, hein, il y a un bon usage et un mauvais usage. Cesare Borgia a fait un bon usage de la cruauté, car par cette cruauté, il a permis l'union hein, et la paix et la tranquillité de la Romagne, et en parallèle, les Florentins, incapables, entre 1500 et 1502, d'agir avec décision, et vous savez que c'est une des premières missions de Machiavel, et il y a des lettres de Machiavel, justement, sur la façon de régler la question des luttes entre les factions à Pistoia entre 1500 et 1502, et la mauvaise utilisation de la pitié hein, par les Florentins n'ont pas permis de calmer les luttes de factions qui déchiraient la ville de Pistoia, qui était une ville donc sujette de Florence, hein. Et donc c'est cette mise en parallèle de l'efficacité du Borgia utilisant bien la cruauté et de la faiblesse de la République de Florence utilisant mal la pitié qui démontre combien peuvent être nécessaires à l'occasion les cruautés bien employées. Alors, derrière la question des usages de la cruauté, derrière ces deux exemples d'Agathocle et d'Oliverotto da Fermo, c'est donc bien la question de la place et du rôle de la force, du nécessaire exercice de la force qui est posée. Et cette question ouvre un espace hein, qui peut à la fois manifester la faiblesse, hein, la faiblesse de la République florentine et la question déterminante de l'emploi des armes et de la force pour les gens qui doivent innover, qui doivent fonder, qui doivent maintenir. La cruauté est une question subsidiaire par rapport à la question de la force et la conséquence dans la pensée machiavélienne, c'est donc bien que il faut admettre qu'on peut ponctuellement admettre l'usage de la force et de la cruauté sans pour autant qu'on puisse considérer que l'ensemble d'une politique est scélérate ou criminelle. Donc, le premier point auquel on est arrivé, c'est donc cette radicale historicisation du bien et du mal. Le deuxième point sur lequel je donnerai simplement de grandes lignes, c'est le point que parallèlement à cette historicisation du bien et du mal, il y a une autre conséquence des analyses machiavéliennes qui là s'exprime moins nettement dans Le Prince, mais très nettement dans en particulier dans les histoires florentines et dans la partie des histoires florentines consacrée au tumulte des Ciompi en 1378, qui est la mise en place d'une hypothèse importante, qui est celle de l'indétermination de l'acteur politique. Alors sur ce point, il faudrait de plus amples développements, mais comme balise dans la réflexion. Donc je suis obligé de faire ça à grands traits. Donc il s'agit passage dans les histoires florentines sur les tumultes de la plèbe florentine en 1378, tumultes qui ont amené pendant un bref moment ces Ciompi, c'est-à-dire ces gens quart d'heure de laine, etc., à avoir une signorie dirigée par l'un d'entre eux et obligé à la création de trois corporations du menu peuple florentin. Alors la question importante, c'est à un moment donné, dans un chapitre, Machiavel fait parler un porte-parole de ces révoltés auquel il ne donne pas de nom, qui dit simplement l'un des plus hardis et ayant la plus grande expérience. Alcuno dei più arditi e di maggiore esperienza tra gli uomini plebei. Donc ce plébéien anonyme fait un discours et ce discours amène à un certain nombre de remarques. Cette oratio ficta inventée par Machiavel a été parfois et très souvent analysé comme la capacité de Machiavel à comprendre de l'intérieur les motivations de la plèbe révoltée, et cela donc sur la base d'une lecture marxiste de ce passage, hein, reprenant les thèses de Marx sur Balzac, qui arrive à comprendre les fonctionnements politiques, bien que lui-même soit un réactionnaire, peu importe la position de Machiavel, qui est sûrement pas un ami des plébéiens, mais il a été capable de comprendre de l'intérieur la logique, hein, la logique du discours, enfin la logique de la position des révoltés. Or, quand on lit le texte de ce discours du plébéien anonyme et qu'on le met en rapport avec les autres textes de Machiavel, on est amené à tirer une toute autre conclusion. Il apparaît en effet que les principales articulations de ce discours du plébéien anonyme, le système de pensée qui est développé, l'outillage rhétorique qui est utilisé, amène à voir qu'on est en fait là devant un discours qui est une sorte de résumé des principales thèses machiavéliennes. L'homme plébéien anonyme qui parle, que fait parler Machiavel, pense à l'aide des catégories machiavéliennes, hein, il va exprimer la thèse de la nécessité, le moteur de l'action, la thèse que la fortune offre une occasion qu'il faut saisir, la thèse selon laquelle la justification des actes et des crimes commis sera apportée par la victoire, la nécessité de la dialectique, de la ruse et de la force lorsqu'il s'agit d'agir politiquement, donc catégorie machiavélienne, hein, maintenant que vous êtes rentré depuis longtemps dans le texte, évidemment, j'ai pas besoin de les justifier par des citations du prince et des discours, hein, vous voyez très bien le type de formulations machiavéliennes qui sont derrière les formulations du Ciompo, des Historie Fiorentine, hein, le système d'image et même l'efficacité rhétorique, hein, sont là aussi des totalement attribuables à la plume machiavélienne. Et de fait, hein, et de fait, la parole de ce plébéien anonyme, telle qu'elle est inventée par Machiavel, n'est pas différente de celle qu'il prête à un prince, à un capitaine ou à un des principaux citoyens d'une cité. Dans la volonté de prendre le pouvoir par les armes, exprimée par le plébéien, et avec l'idée de prendre la place des riches, de prendre leur richesse et de prendre leur place, hein, on peut reconnaître, par exemple, une thèse centrale de la pensée militaire de Machiavel, exprimée dans les discours lorsqu'il affirme que i denari non sono il nervo della guerra, secondo che è comune opinione. Hein, c'est au fond cette thèse-là que défend le plébéien anonyme, comme les bons soldats, les bons révoltés, hein, les bons plébéiens révoltés, peuvent obtenir l'or nécessaire en allant le chercher chez leurs ennemis. Plus généralement, et en règle générale, pour Machiavel, on y a insisté à plusieurs reprises, la politique est un champ de bataille où s'affrontent des forces. Le rapport des forces est l'élément déterminant dans l'analyse d'une situation politique, et il n'y a pas de coupure entre la politique et la guerre. Hein. Vous savez que Clausewitz, hein, dans son De la guerre, Clausewitz est un lecteur de Machiavel. sa formule peut a déjà des racines. La formule sur la guerre, c'est la poursuite de la politique par d'autres moyens. Ce lien, cette absence de rupture entre la guerre et la politique, c'est déjà un élément qui est présent dans la réflexion machiavélienne. Or, cette thèse centrale-là est au cœur de la parole du plébéien telle que l'invente Machiavel. Et c'est la radicalité de cette position machiavélienne de la politique comme rapport de force, quels que soient les protagonistes, qui s'expriment dans ce discours du Chom Po. Et il y a là une radicalité identique à celle qui fait proposer Cesare Borgia comme modèle à suivre, ou qui fait parler de bon ou mauvais usage des cruautés. Voilà. Alors, et on en terminera là, sur la... historicisation du bien et du mal, politisation du bien et du mal, et indétermination de l'acteur politique. Ce que nous dit Machiavel, c'est bien que n'importe qui peut définir les enjeux d'une période historique, dès lors qu'il fait usage de l'art, de l'art du politique semblable, comparable à l'art du bon médecin, du bon architecte. Et il nous dit également qu'est bien ce qui réussit, mauvais ce qui échoue, et que la question centrale est celle de la force, et que de ce fait, il peut y avoir un bon et un mauvais usage de la cruauté. C'est une position qui, évidemment, tend à pulvériser les présupposés moraux. Pas seulement les présupposés religieux, présupposés moraux, si on ne se place plus maintenant à l'époque de Machiavel, mais sur l'efficacité, sur la longue durée de la réflexion machiavélienne. Rappelez-vous que Guicciardini ne dit pas autre chose quand il écrit dans le dialogue de Regimento di Firenze que si on veut agir selon sa conscience, il faut se retirer des affaires du monde. Et donc ce que met en évidence Machiavel, c'est donc ce qui est derrière le discours de la morale, derrière le discours de la vertu du prince. La force et la possibilité d'utiliser les armes. Y compris ceux qui portent dans l'action politique le message divin, ont l'obligation d'utiliser les armes, et les prophètes armés réussissent, les prophètes désarmés, ceux qui n'ont pas, au-delà de la force que leur donne la parole divine, qui n'ont pas la possibilité d'utiliser la force échouent. Ce point est déjà explicité dans le chapitre 6 du Prince. Il sera repris avec une formule extrêmement intéressante dans les discours où Machiavel, revenant sur Moïse, sur le cas de Moïse, écrit la phrase suivante. C'est vraiment une des rares fois où il emploie l'adverbe sensatamente. Il explicite de la façon suivante. Qui legge la Bibbia sensatamente vedrà Moïse aver ammazzato un numero infinito di uomini per assicurare i suoi ordini. Alors, donner du sens à la Bible, c'est considérer que il ne suffit pas d'être un exécuteur des choses que Dieu veut. Esecutore delle cose che gli erano ordinate da Dio, dit-il à propos de Moïse dans le chapitre 6 du Prince. Il fallait aussi la force militaire. Qui était donc les Lévites. Bon, l'allusion est au moment où Moïse, descendant de sa rencontre avec la divinité, trouve le peuple en train d'adorer le veau d'or, et donc appelle à lui ceux qui sont fidèles au pacte et massacre une partie des juifs qui ont trahi le pacte d'alliance. Vous savez que c'est vraiment, ils brisent les deux tables écrites du doigt de Dieu. Et alors, ce point, Machiavel le met en évidence dans cette brève notation des discours. Derrière le discours de la morale, il y a la nécessité de la force et des armes. Là, donc, c'est un dévoilement radical. Il nous dit de regarder derrière l'idée de la justice, l'idée de la morale, l'idée du bien commun, l'idée même de la volonté divine. Derrière ça, il y a la nécessité de la force comme principe même de l'agir politique et du pouvoir. Il faut à tout instant penser à ce dévoilement machiavélien, avoir en tête qu'en effet le combat politique se mène à la manière des hommes et à la manière des bêtes. C'est-à-dire la force et la ruse, à la manière des hommes. En effet, les lois, les ordres, les institutions, mais aussi à la manière des bêtes, la force, la ruse, les armes. avoir en tête donc cet autre dévoilement là par le contemporain de Machiavel, Francesco Guicciardini, que il faut prendre garde à ce que la douceur des mots ne nous fasse pas oublier de prendre en compte les choses telles qu'elles sont véritablement. Donc, il y a là un retour pas très rassurant pour la politique et pour l'intervention dans le monde politique, mais dont il faut tenir compte dans les analyses. Hein, c'est un retour à la vérité faite toile de la cause et qu'on peut considérer comme un avertissement à entendre, comme un avertissement dont on peut faire son profit, hein, avec l'hypothèse que le prince comme le chompo, donc le chompo comme le prince, peuvent faire leur profit de ce dévoilement machiavélien. Les éclairages de Machiavel sur le politique sont utilisables par tous. Il apprend à penser les conjonctures et leurs enjeux, à savoir que les mêmes mots n'ont pas le même sens à des moments différents, à réfléchir aux effets que peuvent provoquer tel ou tel objectif. Il oblige donc à rejeter l'illusion de la de l'évidence, hein, pour aller regarder derrière les mots utilisés, derrière les grandes déclarations, la réalité des rapports de force. Voilà pour aujourd'hui ce point sur les questions éthiques, morales chez Machiavel et des rapports entre politique et morale chez lui.